Vous écoutez, on lit pour vous.
Qui se cache derrière la voix de Donald Trump à RDI? Un texte d'Étienne Paré, paru le 18 septembre 2024 dans Le Devoir. Le nom de Jean Bisping ne vous dit probablement pas grand-chose. Pourtant, sa voix est familière à plusieurs. Depuis 30 ans, il est l'interprète maison de RDI. C'est lui qui traduit en direct les discours de Donald Trump, de Joe Biden, de Doug Ford ou encore de Justin Trudeau. Un métier de l'ombre, aussi méconnu qu'exigeant, pour lequel une maîtrise parfaite de l'anglais et du français est loin d'être la seule compétence requise. Les gens pensent que l'on doit faire deux choses en même temps, écouter et traduire. En réalité, il faut que je fasse trois choses en même temps. Écouter, traduire et m'écouter, pour m'assurer que je suis fidèle dans ma traduction à ce que la personne dit. Car il m'arrive parfois de me tromper, entre les mots « millions » et « milliards », par exemple. Il faut que je sois capable de me corriger, explique le sympathique Jean Bisping, probablement l'un des secrets les mieux gardés de Radio-Canada. Il a été embauché par le diffuseur public il y a 30 ans. En vue de l'entrée en onde de RDI en janvier 1995. Depuis, il passe le plus clair de ses journées de travail, seul, en cabine, se tenant prêt au cas où l'actualité requerrait ses services. Parfois, il peut savoir d'avance quand il sera sollicité, par exemple lors du traditionnel discours sur l'État de l'Union, cette longue tirade de près d'une heure dans laquelle le président américain débite ses priorités devant le Congrès. Il confie d'ailleurs qu'il s'agit de l'un des exercices les plus éreintants pour un interprète. C'est extrêmement exigeant comme travail. Dans beaucoup d'organisations où il y a de la traduction simultanée, les interprètes se relaient toutes les 15 minutes, tellement c'est fatigant. Un jour, un collègue voulait essayer. Il s'est retrouvé à devoir traduire les propos d'une femme parlant avec un accent africain extrêmement prononcé qui donnait une conférence de presse sur un sujet aussi niché que la culture du chanvre et le microcrédit. C'était impossible à faire. Il a fait une crise de nerfs et n'est jamais retourné en cabine, raconte en riant Jean Bisping, qui est lui aussi parfois face à ses limites. Traduit en direct la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, durant la pandémie, nécessitait toute sa concentration à cause de son fort accent. Les expressions de certains politiciens lui donnent également beaucoup de fil à retordre, surtout quand elles n'ont pas d'équivalent dans la langue de Molière. On dit souvent que l'anglais est plus facile que le français, mais ce n'est pas si vrai. Apprendre les 800 premiers mots en anglais, c'est vrai que c'est plus facile, car ce sont toujours les mêmes conjugaisons. Mais l'anglais, c'est une langue qui évolue beaucoup plus que le français. Dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas l'équivalent de l'office de la langue française. Personne ne dit aux anglophones comment parler. Ça fait qu'il y a toujours de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Ce n'est pas facile à suivre. Je suis toujours dans le Urban Dictionary, souligne ce passionné. Accident de parcours. La retraite ne fait pas pour l'heure partie de ses plans. Il compte continuer le travail tant que l'envie y sera et ne craint pas d'être remplacé par l'intelligence artificielle d'ici là. Ce métier qu'il aime tant. Jean Bisping n'a pourtant jamais rêvé de l'exercer, même s'il semblait y être prédestiné, lui qui est presque né polyglotte. Résultat d'une éducation bilingue. Il parle français et anglais, mais aussi espagnol et polonais, la langue de ses parents. C'est pour payer ses études en sociologie qu'il a commencé à travailler comme interprète au palais de justice à Ottawa. Il a eu la piqûre. J'ai travaillé un jour sur le procès d'un type qui était accusé de meurtre. Il disait qu'il ne comprenait pas l'anglais. À la fin du procès, on lui avait demandé pourquoi il était sorti avec une unilingue anglophone. On avait réalisé qu'il parlait très bien anglais. Il voulait seulement entendre les questions deux fois pour prendre le temps de mieux répondre. Finalement, il en a pris pour 25 ans, se remémore ce moulin à paroles qui n'est jamais à court d'anecdotes. Des propos orduriers. Après 30 ans à Radio-Canada, les souvenirs s'accumulent. L'interprète de RDI raconte avoir scandalisé bon nombre de téléspectateurs en se retrouvant à traduire des propos extrêmement racistes après le passage de l'ouragan Katrina en 2005. La caméra était alors braquée sur des sinistrés qui invectivaient une femme d'origine coréenne venue profiter de leur malheur en vendant des bouteilles d'eau sur le bord des digues. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Ce n'est pas évident. Mais je me dis que si la direction a décidé de mettre quelque chose en onde, je me dois d'être le plus fidèle à ce qui se passe, souligne Jean Bisping, qui a appliqué le même principe la semaine dernière en doublant Donald Trump durant le débat présidentiel. À propos de différents personnages politiques, Donald Trump, c'est très stimulant de faire Donald Trump sans égard à ses prises de position. On ne sait jamais ce qui va sortir de sa bouche. Il est très spontané, il n'a pas de filtre. Du point de vue d'un interprète, c'est plus intéressant de faire un politicien imprévisible que quelqu'un qui ne fait que lire un discours. Doug Ford. C'est l'un des plus difficiles à faire. Ça prend beaucoup de présence d'esprit pour arriver à le suivre. Il est très coloré et il parle vite. Il utilise beaucoup de métaphores qui n'ont pas nécessairement d'équivalent en français. Je suis obligé de faire des compromis pour arriver à traduire ses propos. Barack Obama. Contrairement à ce que l'on dit souvent, je ne trouve pas que c'est un grand orateur. Sa femme est bien meilleure, car on sent que c'est une militante et qu'elle parle avec ses tripes. Lui, il est trop intellectuel, il est coupé de ses émotions, il fait des pauses énormes qui donnent l'impression qu'il a trop confiance en lui. Bill Clinton. C'est probablement le plus grand orateur que j'ai eu à traduire avec Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique. Ça s'entend qu'il a grandi dans le sud des États-Unis. Il y a quelque chose chez lui d'un prédicateur évangéliste qui ne se contente pas de donner un discours, mais qui communique avec la foule. Il y a une musicalité là-dedans. C'était « Qui se cache derrière la voix de Donald Trump à RDI », un texte d'Étienne Paré, paru le 18 septembre 2024 dans « Le Devoir ».
Le Royaume-Uni dit « bye-bye » à sa dernière centrale électrique au charbon. Un texte de Clément Zampa de l'agence France-Presse, paru le 18 septembre 2024 dans « Le Devoir ». Plus de 140 ans après l'ouverture à Londres de la première centrale électrique au charbon du monde, le Royaume-Uni s'apprête à dire adieu à ce combustible ultra-polluant qui a tant compté dans son développement, une première pour un pays du G7. Ces imposantes cheminées grises détonnent au milieu de la verdure des East Midlands, au centre de l'Angleterre. 8 balises alignées, parfois fumantes, qui s'incrustent à chaque coin de terre dans l'œil des habitants. Mais les jours de la centrale de Ratcliffe-on-Soar, entre Derby et Nottingham, la dernière à utiliser du charbon au Royaume-Uni, sont comptés. Le vénérable établissement, inauguré en 1967, mettra la clé sous la porte le 30 septembre 2024, sonnant le glas du combustible dans la production électrique du pays. « Ça va être très étrange parce qu'elle a toujours été là », témoigne David Reynolds, un retraité de 74 ans qui a vu la centrale se construire sous ses yeux quand il était enfant. « Quand j'étais plus jeune, on pouvait traverser certains coins et ne voir que des mines de charbon », se remémore cet homme aux traits creusés. Avant de s'interroger, je me demande comment nous allons pouvoir nous en passer tout d'un coup. Great Smog. L'histoire du Royaume-Uni est intimement liée à celle du charbon qui a contribué à son essor économique au 19e siècle et jusqu'aux années 1990. cette énergie extrêmement polluante, le Great Smog londonien de 1952, et ses milliers de morts restent d'ailleurs gravés dans la mémoire britannique, représentaient encore près de 70 % de l'électricité dans les années 1980. Avant une baisse spectaculaire, 38 % en 2013, 5 % en 2018 et 1 % en 2023, selon l'Institut Our World in Data. La fermeture de Ratcliffe-on-Soar est une étape symbolique dans l'ambition de Londres de décarboner totalement son électricité d'ici 2030, puis d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Un horizon 2030 très ambitieux, reconnaît Jess Ralston du groupe de réflexion Energy and Climate Intelligence Unit, ECIU, mais la fin du charbon permet déjà d'envoyer un message très fort aux autres pays. Car le Royaume-Uni est le premier pays du G7 à faire sans le combustible. L'Italie s'est fixée 2025, la France 2027, le Canada 2030, l'Allemagne 2038. Le Japon et les États-Unis n'ont pas de date précise. Dioxyde de soufre. Pour se défaire du combustible, les Britanniques ont compensé avec le gaz naturel, un peu moins polluant qui représente en 2023 un tiers de l'électricité. Un quart revient à l'éolien, une proportion notable. Le nucléaire est à environ 13 %. Ce succès s'explique par une combinaison de facteurs économiques et de réglementation, détaille Jess Ralston. D'une part, la fin de l'économie manufacturière a fait perdre au charbon de son importance. D'autre part, les centrales électriques ont été soumises à des réglementations en raison du dioxyde de soufre, des oxydes d'azote et de toutes leurs émissions, poursuit l'analyste. Au bout du compte, il n'était plus économiquement intéressant d'investir dans cette énergie, contrairement aux renouvelables. Les engagements du Royaume-Uni en matière de changement climatique n'ont que renforcé le mouvement. Le nouveau gouvernement travailliste a lancé cet été un plan sur les énergies vertes avec la création d'une entreprise publique pour investir dans les éoliennes flottantes, l'énergie marémotrice ou le nucléaire. Thomas Edison. La centrale de Ratcliffe-on-Soar, potentiellement capable d'électriser 2 millions de foyers, n'était plus sollicitée que ponctuellement, par exemple à cause d'une vague de froid en 2022 ou d'une canicule toute relative, parfois plus de 30 degrés, faisant craindre l'utilisation intensive de climatiseurs en 2023. Son ultime cargaison, 1650 tonnes de charbon au début de l'été 2024, permet à peine d'alimenter 500 000 foyers pendant 8 heures. C'est comme la fin d'une ère, résume Becky, 25 ans, qui sert tatouage au poignet des pintes à 4 livres derrière le comptoir en bois du Red Lion, un pub du bourg de Kegworth, proche du site. Son père, qui travaille dans la centrale depuis des années, va perdre son emploi. Elle anticipe beaucoup d'émotions le 30 septembre pour les 350 employés. C'est toute leur vie. Il ne reste rien de la première centrale au charbon du monde créée par Thomas Edison et ouverte en plein cœur de Londres en 1882. Un destin similaire attend celle de Ratcliffe-on-Soar, totalement démantelée d'ici la fin de la décennie, selon Uniper. Avant la création sur place d'un pôle de technologie et d'énergie sans carbone. C'était « Le Royaume-Uni dit bye-bye à sa dernière centrale électrique au charbon », un texte de Clément Zampa de l'agence France Presse, paru le 18 septembre 2024 dans Le Devoir.
Avez-vous votre T-shirt de La maison de l'aspirateur? Un texte d'Émilie Côté, paru le 8 septembre 2024 dans La Presse. Il a fièrement été porté par l'animateur Pierre Brassard et l'humoriste Corinne Côté, et il le sera même par l'un des personnages du film Mile End Kicks, en tournage actuellement à Montréal. On ne parle pas d'un vêtement d'une griffe luxueuse ou branchée, plutôt du T-shirt de la maison de l'aspirateur. Pour vrai, si tu savais comme pour moi, c'est presque incompréhensible, lance le propriétaire Stéphane Dumais. Pourtant, c'est lui qui a suggéré à son ancien patron que les employés portent un T-shirt avec le logo de l'entreprise composé d'un éléphant qui a comme trompe un manche d'aspirateur plutôt qu'une chemise. C'était sans prévoir que cela allait créer une demande auprès de la clientèle. Une douzaine d'années plus tard, il y a un véritable engouement autour des T-shirts au charme rétro de la maison de l'aspirateur qui se commande en ligne de partout au Québec au prix modique de $24,99. On en vend 600 par année, indique Stéphane Dumais, qui peut certainement se vanter d'avoir eu un bon flair marketing. Outre les T-shirts, on vend des tuques et des casquettes. J'ai toujours adoré le logo et misé sur lui, nous dit Stéphane Dumais. Attachement émotif. C'est devenu de la routine, mais Stéphane Dumais se pince encore quand des gens entrent à l'improviste avec un sourire gêné en demandant s'ils peuvent acheter un T-shirt. C'est sans compter les passants qui se prennent en photo au quotidien devant la vitrine. Récemment, un ami de Pittsburgh, qui était en croisière, lui a envoyé une photo d'un passager avec son T-shirt de la maison de l'aspirateur. Mais le nom de l'homme qui a conçu le logo il y a environ 25 ans demeure un grand mystère. La seule exigence qu'avait le propriétaire de l'époque, un certain Lucien Lafortune, était que cela ne coûte pas cher, relate Stéphane Dumais. Or, le logo est officiellement enregistré comme marque de commerce. Stéphane Dumais indique par ailleurs qu'une ancienne enseigne de la maison de l'aspirateur se trouve au musée du MEM, Centre des mémoires montréalaises. Les couleurs sont différentes, car c'était pour une sous-division industrielle, devenue CAPT-R. Hélène Godin, présidente de l'École des sciences de la créativité, la Factory, dit « En tant que résidente du quartier depuis près de 30 ans, j'ai vu ce logo devenir mythique. C'est quasiment devenu le logo du Mile End. » Selon l'experte en design, c'est un logo à la fois simple et figuratif qui est témoin d'un passé historique, qui fait sourire et qui rappelle l'enfance, donc qui suscite un attachement émotif. De plus, il s'affiche dans un endroit névralgique, sous le viaduc Van Horn, en face du parc de planches à roulettes. Dans un film. Tout récemment, l'équipe de production du film Mile End Kicks, en tournage dans le quartier du même nom, a demandé à Stéphane Dumais si l'un des personnages pouvait porter à l'écran le T-shirt du fier partenaire de votre ménage depuis 1938. Signé Chandler Levac, le synopsis de Mile End Kicks est très Mile End. Le film relate l'arrivée en 2011 à Montréal d'une jeune critique rock, incarnée par Barbie Ferreira de la série Euphoria, qui veut écrire un livre sur l'album d'Alanis Morissette, Jagged Little Pill, mais qui se fait prendre dans un triangle amoureux avec deux musiciens du même groupe indie rock. Tout cela pour dire que le T-shirt de la maison de l'aspirateur s'en va peut-être à Hollywood. Qui sait? Peut-être qu'il sera un jour en vente sur le site de Simons, comme le sont les sacs de Saint-Viateur Bagel. Un service à la clientèle du bon vieux temps. La maison de l'aspirateur compte un magasin à Laval et un autre à Saint-Léonard. Celui d'origine, sur le boulevard Saint-Laurent, date de 1938. Mais il a d'abord occupé l'espace de l'ancienne maison des Encans avant de déménager au nord à un coin de rue. La longévité de la maison de l'aspirateur s'explique par l'excellence de son service à la clientèle, croit Stéphane Dumais. Ici, on prend le client par la main. Nous offrons les mêmes prix qu'ailleurs. Mais quand tu pars avec ta boîte, tu connais la machine et son entretien de A à Z. Les gens ont une garantie pour les produits qu'ils achètent et l'assurance à plus long terme que leur aspirateur pourra être réparé, ce qui est plutôt rassurant en cette ère d'obsolescence programmée et de commerce en ligne sur Amazon. Si Stéphane Dumais peut aujourd'hui compter sur 17 employés, il a commencé comme simple vendeur. C'est après 14 ans de loyaux services qu'il a convenu, en 2020, avec l'ancien propriétaire, André Rouette, de prendre le relais, tout en menant en parallèle une carrière d'hypnotiseur. J'ai un grand attachement envers la compagnie, et le logo. Il y a quelque chose de magique de penser qu'un commerce perdure depuis 86 ans. Quand j'étais jeune, ce n'était pas dans mes plans de devenir propriétaire d'un magasin d'aspirateurs, ajoute-t-il à la blague. Mais quelle aventure et quel T-shirt! Le plus beau T-shirt de l'univers, peut-on lire sur le site web de la maison de l'aspirateur. C'était « Avez-vous votre T-shirt de la maison de l'aspirateur? » Un texte d'Émilie Côté, paru le 8 septembre 2024 dans La Presse.
Parole d'éditrice Laurence Perron. Un texte de Laurence Perron, paru le 11 juin 2024 dans Les Libraires. Communauté, je vous aime. La citation est célèbre. Famille, je vous hais. Foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur. Cette phrase, lancée par Gide dans Les Nourritures terrestres, 1897, pourrait bien être l'exergue de Faire justice, moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes, publié par Elsa Deck-Marceau, édité par Remus Ménage ici et La Fabrique en France, cette année. L'autrice, cofondatrice du collectif d'entraide à la prise en charge des conflits dans les organisations communautaires FRACA, s'arme de son expérience de terrain pour explorer les limites des outils qu'utilisent les communautés progressistes dans la gestion interne des violences. Ce faisant, elle récuse le principe selon lequel on doit laver son linge sale en privé, et ce, pour le plus grand bien de nos espaces militants. L'ouvrage repose, au contraire, sur la conviction essentielle qu'il faut cesser de craindre la récupération de nos critiques intracommunautaires par la droite et plutôt enlever à celle-ci le monopole du discours critique sur l'épouvantail du wokisme. À l'hégémonie discursive réactionnaire nous avons non seulement le droit, mais aussi le devoir de substituer une pensée rigoureuse et auto-réflexive sur nos pratiques de justice et de soins collectifs. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut donner raison aux chroniques heureuses effarées qui proclament que la chasse aux sorcières est désormais ouverte. En mettant au centre de sa démarche les principes de la justice transformatrice, Dec Marceau redonne plutôt sa juste place à la notion de processus. Faire justice s'intéresse donc plus précisément à la manière dont le refus des autorités étatiques, la police et la justice, aussi légitimes soient-elles, nous amène parfois à aller à l'encontre d'une réelle logique abolitionniste qui voudrait que nous préconisions davantage, pour reprendre sa formule, les procès sans peine que les peines sans procès. Pourquoi nous faisons-nous violence à ce point, sinon parce que la logique punitive de l'État a drastiquement infusé nos imaginaires? Comment s'ébrouer de cette gangue toxique et trouver des modèles alternatifs pour surmonter nos différends? Au-delà de l'acuité extrême de l'autrice, quant aux réalités sur lesquelles nous nous cassons actuellement le nez à force de nous échiner à incarner ce que les auteuristes de joie militante, Carla Bergman et Nick Montgomery, qualifient de « militantisme triste », une posture axée sur la pureté et l'intransigeance, Dec Marceau fait le pari de la vulnérabilité et du risque. C'est peut-être le plus beau geste opéré d'en faire justice. Déposer sa confiance en l'intelligence sensible de ses interlocuteurs, accueillir la possibilité du conflit et accepter d'avoir la curiosité nécessaire et jamais malsaine de découvrir ce qui germe lorsqu'on octroie aux autres la possibilité de répondre autrement à la violence. Dec Marceau haït-elle sa famille? La question est mal posée. Ce qui est répudié, ici, n'est pas le groupe d'appartenance, mais les réflexes d'opacité, d'arbitraire et d'entre-soi dont il est capable de faire preuve. Il faudrait peut-être plutôt dire « communauté, je vous aime ». C'était « Parole d'éditrice » Laurence Perron, un texte de Laurence Perron, paru le 11 juin 2024 dans Les Libraires.